Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'ordinateur. L'ordinateur.
Vous n'avez pas de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation de l'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus patrons,
je... Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est dans le mètre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, je vais me tomber en panne de pause. C'est du temps que vous ne prenez pas. C'est quand même curieux. 100 fois, j'ai dit,
aujourd'hui, mercredi 11 juin, c'est la sainte Rima Hassan. Hassan avec un ha 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 ha, comme dans ha ha Hamas. Ah ben, il n'y a pas de hasard, hein. Sainte Rima Hassan est donc bien la sainte patronne des apologistes du ha 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 ha, du ha 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 ha, du droit international, quoi. Quel culot! Mais quel culot! Déjà, Sainte Rima Hassan est palestinienne et réfugiée. Autant dire que pour les racistes de Tel Aviv, elle ne devrait même pas exister, si ce n'est sous la forme poétique exprimée par le porte-parole du Likoud en France de « petite pute antisémite ». Venant d'un gros port fasciste, cette caractérisation de Rima est un compliment à toute l'humanité. Quel culot! Eh oui, parce que par extension, Sainte Rima Hassan est donc également une Française de papier. Ah ben oui, ça se voit, hein. Comme le dirait le nain fasciste Zemmour, une Française de papier arabo-musulmane, c'est-à-dire, pour les adeptes du battleur fasciste Pascal Pro, une sous-humaine, une menace pour son identité à lui, une grand remplaçante incompatible avec la République de Attayo. Quel incroyable culot! Sainte Rima Hassan est également une élue de la France insoumise, à savoir une adepte du gourou islamo-gauchiste antisémite. Il n'est donc pas étonnant de l'entendre aboyer des insanités, comme par exemple halte au génocide, ou encore, c'est un extrémisme impardonnable, respect du droit international. Oh non, mais ça fait froid dans le dos, là, hein. Mais quel culot! Quel culot! Sainte Rima Hassan, en plus, est une femme. Ce qui fait dire au bof de CNews et les autres bistrots du même tonneau, qu'elle traverse la Méditerranée pour parfaire son bronzage et faire la une de la presse people. En effet, une gonzesse peut-elle agir autrement qu'en vue de charmer par ses artifices ? C'est du buzz ! C'est du buzz, comme on dit dans les rangs des militants sérieux qui respectent les règlements des assemblées et qui construisent la gauche responsable dont la France a besoin. Et le sionisme aussi. C'est ainsi que, quel culot, l'apatride, l'enfant de la Nakba, la militante qui ne craint ni le Mossad ni la mort promise, la femme courage, survolant un océan de petites lâchetés, a été canonisée en ricanant lorsque la bave des crapauds tenta de briser ses ailes. Eh, faire demi-tour ? Et quoi encore ? Aujourd'hui, mercredi 11 juin 2025, le soleil s'est levé. Sur le quai, les cales gorgées d'amour et de chants de paix. Il va se coucher, il va falloir tout débarquer, et ça sera long, ça sera lourd, tu sais. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campusnil.com. Ce soir, nous vous proposons le cinquième volet organisé par le Café Marxiste avec Antoine Patan autour de Marx et du Capital. C'est vraiment passionnant. Mais tout de suite ou presque, avant en tout cas, la rubrique de Saïd Bouamara, Le Monde vu d'en bas, où il s'interroge sur les liens entre Trump et les Afrikaners d'Afrique du Sud. L'apartheid, ça vous rappelle quelque chose ? C'est d'actualité, c'est l'heure de le mettre.
J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage. De soi que l'on porte au bout des doigts, de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler c'est si léger, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage. Que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux, j'en ai trouvé. Mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux accusations farfelues proférées par Donald Trump contre l'Afrique du Sud et à leurs objectifs politiques. Lors d'une rencontre entre le président sud-africain Cyril Ramaphosa et Donald Trump le 21 mai, le président états-unien a accusé l'Afrique du Sud de commettre un véritable génocide contre les fermiers blancs. Devant la presse, il présente des vidéos censées prouver l'existence de ce génocide. Quelques mois auparavant, le 7 février, il signait un décret pour faciliter l'asile des réfugiés afrikaners fuyant ce pseudo-génocide. Lors de l'accueil d'un premier groupe de 49 pseudo-réfugiés le 12 mai, Trump déclare lors d'une conférence de presse, je cite, « C'est un génocide dont vous ne voulez pas parler, mais il se passe quelque chose de terrible. Des agriculteurs sont tués et les journaux, les médias et la télévision n'en parlent même pas. Si c'est l'inverse, ils en parlent. C'est même la seule chose dont ils parlent. Je me fous de savoir qui ils sont. Je sais juste que des gens en Afrique du Sud me disent que ce qui se passe est terrible. Nous avons donc donné la citoyenneté à ces personnes pour échapper à cette violence et venir ici. » Fin de citation. L'accusation de génocide blanc a débuté début février 2025, juste après l'adoption, le 23 janvier par l'Afrique du Sud, d'une nouvelle loi agraire visant, je cite, à exproprier des terres dans l'intérêt public pour diverses raisons, visant entre autres à promouvoir l'inclusivité et l'accès aux ressources naturelles. Fin de citation. Pour comprendre l'importance de cette loi, qui a beaucoup trop tardé, il convient de rappeler quelques données que Donald Trump se garde bien de rappeler. Ainsi, seulement 4% des terres cultivables appartiennent à des Sud-Africains noirs, alors que ceux-ci représentent 81% de la population. À l'inverse, les 36 000 fermiers blancs, qui ne représentent que 7% de la population, possèdent 72% des terres. On comprend dès lors l'urgence d'une redistribution des terres qui n'a que trop tardé depuis la fin de l'apartheid. Occultant ce contexte, Elon Musk déclarait en réaction à la nouvelle loi agraire, je cite, « Pourquoi vos lois sur la propriété sont-elles ouvertement racistes ? Les Sud-Africains blancs sont persécutés en raison de leur race dans leur propre pays. » Fin de citation. En outre, la nouvelle loi agraire n'affiche que des objectifs très modestes et bien inférieurs à une logique égalitaire. Elle ne vise principalement que des terres abandonnées ou en friche et prévoit une indemnisation au prix du marché. Comme on le constate, nous sommes loin de l'objectif de Mandela lors de son accession au pouvoir en 1994, prévoyant la restitution de 30% des terres sud-africaines à leurs anciens propriétaires avant 2014. Ces terres, aujourd'hui propriété de fermiers blancs, sont en effet le résultat d'une expropriation légale des petits propriétaires noirs. Une loi sur les terres de 1913 interdisait en effet aux noirs d'acheter ou de louer des terres dans les zones dites blanches. L'effet immédiat fut l'expulsion forcée et violente des petits propriétaires noirs. La nouvelle loi, jugée génocidaire par Trump, ne fait que reprendre cet objectif de 30% des terres pour l'horizon 2030. Si l'apartheid a effectivement été aboli en 1994, ses effets structurels en termes d'inégalité économique sont encore bien présents sur le plan de la répartition des richesses et de la propriété. La rhétorique de Donald Trump est connue. Elle est un des outils classiques de tous les processus de domination. Elle consiste, pour le dominant, à retourner l'accusation qui lui est faite et à accuser à son tour le dominé de la même infamie. Elle a été utilisée dans le passé contre les militants et mouvements anti-esclavagistes, anti-coloniaux, anti-racistes, anti-capitalistes, etc. Frantz Fanon, Lumumba, Mandela et des dizaines d'autres combattants de l'égalité ont été dans le passé accusés d'être des racistes anti-blancs. Aujourd'hui, c'est le pays qui a saisi la justice internationale pour enfin caractériser justement le génocide sioniste à Gaza qui est à son tour accusé de génocide. L'action juridique de l'Afrique du Sud contre les génocides sionistes a produit des effets importants, même si l'état actuel du rapport de force mondial, en particulier au sein des institutions internationales, ne permet pas que la plainte sud-africaine ne débouche sur le moindre résultat. Les effets se situent ailleurs. Ils consistent en la libération de la parole, en la disparition d'un tabou, en l'éclatement du carcan idéologique de la propagande sioniste, empêchant jusqu'alors de désigner le sionisme pour ce qu'il est, un régime génocidaire. La plainte de l'Afrique du Sud signe de fait une défaite morale du sionisme pour la première fois depuis 1948. Or, faut-il encore le rappeler, toutes les guerres de libération nationale ont été victorieuses qu'après une défaite morale de l'oppresseur. C'est sur cette défaite morale que tente de revenir Trump par des accusations farfelues. Comme d'habitude, il accompagne ces accusations ubuesques de pression et de sanctions. Sur le plan des sanctions, il suspend totalement l'aide états-unienne à l'Afrique du Sud, qui s'évaluait à 440 millions de dollars en 2023, essentiellement fléchée vers le secteur de la santé et plus particulièrement en direction des personnes victimes du sida. Sur les plans des menaces, il expulse en mars dernier l'ambassadeur sud-africain en ne lui laissant que 72 heures pour quitter les États-Unis et en l'accusant, je cite, d'être un homme politique raciste qui déteste l'Amérique, fin de citation. L'objectif de l'ensemble de cette campagne est de contraindre l'Afrique du Sud à faire profil bas sur le plan international. Que ce soit au niveau des équilibres mondiaux avec son implication totale dans la dynamique multipolaire des BRICS, sur le plan africain avec son refus des ingérences étrangères et son appel à un règlement africain des problèmes africains, ou son soutien à la lutte du peuple sahraoui, sur la question palestinienne et sa dénonciation exemplaire du génocide sioniste, l'Afrique du Sud est sur tous ses fronts diamétralement opposée à l'hégémonisme états-unien. Enfin, n'oublions pas que la Chine est considérée par Washington comme un danger stratégique à contenir et à affaiblir, et celle-ci est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Selon les données publiées par le South African Revenue Service, la Chine représentait 11,6% des exportations sud-africaines et 23,1% des importations en avril 2024. De même que le discours sur la paix en Ukraine de Donald Trump portait en objectif caché l'espoir de distendre l'alliance entre la Chine et la Russie, les accusations et sanctions contre l'Afrique du Sud sont sous-tendues par un objectif d'éloigner l'Afrique du Sud de la dynamique des BRICS et plus largement de distendre ses liens avec Pékin. Loin d'être un individu rationnel, comme le présentent de nombreux médias, Donald Trump poursuit, on le voit, une stratégie cohérente de défense par tous les moyens possibles des intérêts de l'hégémonisme états-unien.
La lingua più diffusa da Roma a Milano, il principale prodotto d'esportazione italiano. Noi non emigriamo, napolitano, so più di
di 150 anni che colonizziamo, non emigriamo, napolitane, da più di 150 anni ci ricollochiamo. Napoli, 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 coi colori, gli ori e i dolori, Napoli, con l'orgoglio, raggia, prepotenza e Napoli, atto coglio, coglio, figlio sempre Napoli. Napoli, 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 napolitica da niente, trasformare tutto il mondo in una grande Napoli. Napoli, 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 Napoli.
So giamaicana, africana, son nata a Milano.
Il principale prodotto d'esportazione italiano.
So giamaicana, africana, son nata a Milano.
So napulitana.
So giamaicana, africana, son nata a Milano.
Il più diffuso prodotto d'esportazione italiano.
So giamaicana, africana, son nata a Milano.
Radio Campus.
J'ai compris. Vous pouvez compter sur moi, j'ai compris.
Oui, oui.
Comment ça, j'ai pas compris? Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'avais pas compris.
106,6.
Bonjour à tous. Alors, on retrouve Antoine Vatan, notre économiste en chef.
Chief économiste.
Pour ce dernier épisode de notre série sur le capital de Marx. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser aux autres théories économiques. Et notamment donc aux penseurs classiques, néoclassiques et aux keynésiens.
Oui.
Donc première question, qu'est-ce qui caractérise les penseurs classiques? Donc on avait parlé de Smith, Ricardo, mais il y a aussi Malthus, Say ou Mill. Et quelle différence avec Marx?
Bien. Il y a à la fois des points communs et des différences. Je ne vais pas dire que c'est la dissertation tarte à la crème de licence. Marx est-il le dernier des classiques? Mais presque. Il y a à la fois des côtés progressistes qu'il faut retenir, puis des côtés franchement réactionnaires chez les penseurs classiques. Le côté, j'allais dire, progressiste, ou en tout cas qui fera héritage, et qui maintenant s'est diffusé, c'est que dans l'explication que les hommes ont d'eux-mêmes, j'allais dire dans l'anthropologie au sens large, c'est-à-dire l'homme qui s'étudie lui-même, c'est-à-dire pas l'homme qui étudie la nature, mais l'homme qui s'étudie lui-même, ben, ils vont quand même mettre au centre les rapports économiques. Ce qui est globalement inédit. Hein, d'ailleurs, toute histoire de la pensée économique commence. Alors, il y a vaguement la crématistique, quoi, mais après, bon, on enjambe le Moyen-Âge et puis on arrive tout de suite aux penseurs classiques, en commençant par notamment souvent la fable des abeilles. Mais bon, ça, quand même, c'est quand même à mettre à leur crédit, c'est-à-dire que c'est. Et c'est un côté révolutionnaire, encore une fois, qui accompagne la bourgeoisie, hein, parce que la bourgeoisie prend le pouvoir économique, donc à un moment donné, elle doit aussi justifier le fait qu'elle fasse la révolution. Ils mettent les rapports économiques au centre, j'allais dire, de l'analyse des sociétés. Donc évidemment, ça, Marx reprendra ça. La dernière fois, j'ai dit, Marx ne les nie pas directement, il les développe, il pousse jusqu'au bout, il pousse les curseurs. Alors souvent, ça peut être mal compris, dans le sens où, en fait, ils n'ont pas été très loin dans l'analyse, et puis, en fait, Marx a juste complété la théorie. En fait, non, parce que en poussant les curseurs jusqu'au bout, en fait, il va montrer les contradictions de cette pensée et il va finir par les dépasser en les niant, finalement. Okay, donc ça va, mais c'est pas comme un gauchiste qui viendrait en disant le capitalisme, c'est pas bien, il faut penser un autre mode de production, donc j'écris dans ma chambre d'ado un mode de production alternatif. Ce qui existe aussi dans la pensée économique, hein, y compris d'ailleurs à cette époque-là, bien avant Marx, il y a des penseurs du socialisme utopique, comme on l'appellera après. Et d'ailleurs, souvent, en tant que marxiste, on critique ça maintenant au XXIe siècle, mais quand on lit Engels, il est assez laudateur hein, des socialistes utopiques, notamment parce qu'il arrive à extraire, j'allais dire en fait, presque fortuitement, une analyse du capitalisme chez certains auteurs. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet. Mais disons que donc Marx va reprendre prima facie certains aspects de cette analyse, mais pour les développer et finir par les nier. Donc par exemple, chez les penseurs classiques, il y a une théorie de la valeur travail, mais substantialiste. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, la valeur de ce stylo, c'est la quantité de travail incluse dans ce stylo. Et donc, si on prend cet exemple et qu'on veut y aller à gros traits, Marx va dire deux choses qui ne font pas que compléter, mais qui encore une fois dépassent et nient. Premièrement, il va dire, attention, c'est pas la substance travail qu'il y a dedans, c'est le travail abstrait, comme on l'a défini la dernière fois. C'est-à-dire que c'est pas le travail tout court. Parce que du travail tout court, il y en a depuis que l'homme est homme. Hein. Je veux dire, rame, chasseur-cueilleur, c'est du travail. L'esclavagisme, c'est du travail, n'est-ce pas ? Mais c'est pas le travail abstrait au sens de la production capitaliste. Donc déjà, Marx va préciser ça. Mais ce faisant, en fait, il nie la pensée classique, puisque dès l'instant que je dis c'est la quantité de travail tout court qui compte, alors je suis en train de dire, bah, finalement, il n'y a pas tellement d'histoire. Puisque si c'est le travail tout court, du travail tout court, il y en a toujours eu. Et donc finalement, je deviens réactionnaire quand je dis ça, parce que c'est curieux d'ailleurs, c'est au moment où je prends le pouvoir, en tant que bourgeoisie, que j'arrête l'histoire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que là, c'est ça la valeur travail, et donc la valeur travail, en fait, elle a toujours existé, en fait, même si on ne le savait pas, finalement, je caricature un peu, là, mais enfin, globalement, c'est ça. Et donc, de tout temps l'homme, et donc, finalement, les rapports sociaux tels qu'ils sont des rapports sociaux naturels, etc. Et donc Marx ne vient pas du tout. Les rapports sociaux qu'il y a aujourd'hui, quand j'analyse la marchandise, sont des rapports sociaux historiques, qui ont une date de naissance, qui ont un développement, et qui ont une date de fin. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est aussi ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que c'est ce qui compte, c'est la valeur moyenne. Donc c'est pas la valeur incluse dans ce stylo, c'est la valeur moyenne. Par exemple, la valeur du magnétoscope qui a été produit dans les années 80, je crois qu'on avait pris cet exemple la dernière fois. Bah, aujourd'hui, la valeur du magnétoscope, c'est pas la quantité de travail qu'il y a dans le magnétoscope. C'est la valeur total de la valeur moyenne qu'il faut pour produire la capacité pour un être humain de regarder un film, par exemple. Okay. Donc ça veut dire que je vais inclure la valeur dans l'histoire, à la fois comme mode de production, c'est-à-dire comme rapport social du travail, mais aussi comme développement des forces productives. C'est-à-dire que ma valeur ne vaut que par rapport à un certain stade des forces productives. Les deux étant liés. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'allais dire ? Dans les sciences sociales, en général, on fait une distinction entre nature et culture. Bon, encore une fois, on commence par classer les choses. Mais après, si on est vraiment marxiste, on comprend que finalement, la culture qui va nier la nature n'est qu'un développement historique de la nature. Bon, si on lit André Leroy-Gourhan, par exemple, l'homme est homme parce qu'il y a une main autonome, la bipédie et un redressement de la face, et un raccourcissement de la face, quoi, hein, ce qui va permettre de développer le cerveau, etc., donc de développer une pensée. Bref, et donc chez Marx c'est pareil, il y a certes d'un côté les rapports sociaux et certes de l'autre côté le développement des forces productives, mais les deux finalement sont imbriqués. Souvent on nous accuse d'être mécaniste parce que en première approximation on dit le développement des forces productives à un certain stade produit certains rapports sociaux, mais il y a aussi le fait que certains rapports sociaux produisent, et parfois les deux entrent en contradiction, et c'est à ce moment-là qu'on entre dans une phase révolutionnaire. Ou très réactionnaire d'ailleurs, hein, puisque finalement il y a ceux qui disent le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui il est dévoyé, mais en fait c'est juste que le capitalisme il entre dans des contradictions telles que bah effectivement il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient pas le cas avant. Bon, là je vais un petit peu loin pour critiquer par rapport au classique, mais enfin non, mais ça permet aussi de dire comment après on va analyser le capitalisme, y compris contre les pensées qui sont encore aujourd'hui existantes et réactionnaires, qui en fait vont toujours finir par regretter le capitalisme d'avant, quoi, en fait. Hein. Mais ça vient du fait que quand on fait ça, en fait, on a une pensée fixiste, c'est-à-dire qu'on pense que le capitalisme, il est comme ça, et finalement, il a presque de tout temps été, et que quand le capitalisme ne va pas bien, donc autrement dit, quand il rentre en crise, hein, pour le dire prosaïquement, en fait, c'est parce qu'on l'a dévoyé, quoi, sans jamais comprendre que c'est le développement normal du capitalisme. Donc Marx, il va reprendre, j'allais dire, à son compte, certaines prémices de la pensée classique, notamment quand même ce qui fera héritage, et encore aujourd'hui, c'est le fait que les rapports sociaux sont prédéterminés majoritairement par des rapports économiques. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, est un des héritages assez révolutionnaires du capitalisme contre lui-même, parce que aujourd'hui, bon, même dans les bistrots, en fait, hein, même je sais pas, dans la pensée quotidienne, tout le monde, même si c'est d'un point de vue épars, et même si c'est pas précis, bon, globalement, tout le monde dira une phrase du style « toute façon, c'est l'argent qui gouverne le monde », n'est-ce pas ? Bon, c'est une phrase très naïve, hein, n'est-ce pas ? Mais enfin, aujourd'hui, c'est une phrase qui est partagée par à peu près tout le monde, plus personne ne croit en Dieu, plus personne... Et en fait, quand on dit ça, ben, on est en train de dire que, de prime abord, ce qui va expliquer la configuration du monde, ce sont les rapports socio-économiques. Bon, évidemment, ils ne le disent pas aussi précisément, pas avec une conscience de classe, pas avec... mais enfin, quand même, c'est le premier pied à étrier, quoi. Et donc, il y a quand même cet héritage. Mais cet héritage va être dépassé et nié.
Et plus précisément, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le malthusianisme ? Parce qu'en fait, c'est un courant qui revient beaucoup dans l'écologisme, enfin, pas dans l'écologie dans le sens de nos rapports avec la nature et comment on garde des conditions de vie correctes sur Terre, mais dans le malthusianisme, enfin dans l'écologisme capitaliste, on va dire, ça revient beaucoup. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est et quelle critique en fait Marx à son époque déjà?
Y compris chez les gens aujourd'hui qui se revendiquent pas écolo, mais qui sont plus directement réactionnaires. Et globalement, le malthusianisme va considérer qu'il y a une surpopulation, toujours, parce que la population croît à un rythme exponentiel, alors que les moyens de subsistance croissent à un rythme proportionnel. Donc quiconque a fait des maths comprend vite que l'exponentiel finit toujours par rattraper et dépasser rapidement, quel que soit le facteur de départ, ça s'envole.
Donc en gros, il y a beaucoup trop de gens sur Terre par rapport à la nourriture qu'on a, aux moyens de vivre qu'on a.
Oui, alors c'est ce qu'on retient du malthusianisme, c'est un peu plus fin que ça quand même, le malthusianisme. Mais bon, effectivement, c'est souvent ce qu'on retient du malthusianisme. Alors... donc il y a tout un recueil de textes hein, de Marx sur la, et d'Engels sur la critique du malthusianisme. Donc là c'est pareil, on va faire assez court. Mais disons que Malthus constate la surpopulation relative qui est créée par le capitalisme. Et il est penseur bourgeois en ce sens où il ne s'intéresse pas du tout aux conditions de production de cette surpopulation.
Donc cette surpopulation, ça correspond à l'armée de réserve du capital qu'on avait vu au dernier épisode?
Pas exactement, parce que c'est pas du tout les mêmes termes. Mais disons que, si tu veux, oui, peut-être, il faudrait rentrer dans la psychologie de Malthus, je croise quelqu'un dans la rue, je constate que ce type-là est en trop, quoi, dans la production capitaliste, il n'est pas employé, il est là, le pauvre, il fait la manche. Et donc, la pensée bourgeoise de Malthus, c'est de s'occuper de la sphère de circulation. C'est-à-dire que je vais constater qu'il n'y a pas suffisamment de marchandises qui circulent, notamment alimentaires, qui circulent. Et donc c'est ça qui explique la surpopulation. Marx est parfaitement d'accord sur le fait qu'il peut y avoir une surpopulation dans les cycles de développement du capital. Mais c'est lié au cycle de valorisation du capitalisme, comme on l'a dit la dernière fois, n'est-ce pas? Donc c'est pas du tout un phénomène naturel, premièrement. Bon. Et du coup, ce qui va engendrer des conséquences politiques qui sont progressistes vis-à-vis de Malthus, qui sont des conséquences politiques qui sont parfaitement réactionnaires. Bon. Et d'ailleurs, dans les propositions de Malthus, du coup, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, il y aura l'idée globalement d'affamer les pauvres pour éviter qu'ils se reproduisent. Ce qui d'ailleurs est nié aujourd'hui par les statistiques, puisque les populations qui gèrent le mieux leur naissance sont les populations qui vivent correctement. C'est-à-dire que quand j'augmente mon niveau de revenu, en fait, je tente à maîtriser les naissances. Ça se vérifie que ce soit dans les familles. Donc je classe mes familles par niveau de revenu dans quelques pays que ce soit. Ou alors, pire, si je compare des pays entre eux, quoi, si les pays à haut revenu font moins d'enfants que les pays à faible revenu. Donc de toute façon, même la prédiction de Malthus a parfaitement été contredite. Mais en plus, le truc le plus réactionnaire à mon sens, c'est que du coup, Malthus va aussi préconiser la consommation de luxe de la part de la bourgeoisie. C'est là où on voit presque le côté fasciste, parce que finalement, ça veut dire qu'il n'y aurait pas une classe d'êtres humains. Il y aurait des êtres humains à qui, quand on leur octroie des moyens de subsistance, ils vont avoir tendance à se reproduire comme ça, comme des rats, finalement. Hein. Et puis une autre classe d'êtres humains à qui on peut même leur octroyer des produits de luxe, parce que ce faisant, en fait, ça va faire un bienfait, ça va presque être un ruissellement, parce que ça va absorber la surproduction. Et donc, ça va pouvoir même créer un petit peu de boulot pour le pauvre. Ok, bon. Donc Marx, effectivement, va critiquer ça de plein de points de vue. Mais à mon avis, le point de vue qui nous intéresse le plus ici dans nos vidéos, parce qu'on va y revenir après avec les autres théories, c'est que Malthus part d'abord et avant tout et s'en tient à ça, à la sphère de circulation, sans voir la production qu'il y a derrière. Voilà. Bon, il y aurait plein d'autres trucs à dire sur Malthus, mais à mon avis, si on doit retenir quelque chose dans le cadre de nos vidéos, c'est surtout ça. Et en ce sens, il appartient vraiment à la pensée bourgeoise et réactionnaire.
Et Marx montre en fait que les lois de population, elles dépendent de l'évolution du mode de production et, comme tu as dit, de la baisse tendancielle du taux de profit, etc., quoi, de la dynamique du capitalisme. Oui. Et que dans un système socialiste, on pourrait très bien nourrir tout le monde en mettant les forces productives au service de tout le monde, quoi.
Oui, bah c'est dans l'état actuel des forces productives, c'est déjà le cas. Voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme on disait la dernière fois, c'est pas une question de redistribution. La production capitaliste exige globalement qu'il y ait des pauvres. Hein. Mais en même temps, la production capitaliste produit suffisamment de bouffe pour tout le monde. Je veux dire, je sais plus, ça a été étudié, ça, mais pour trouver les chiffres, c'est assez facile. Mais on produit beaucoup plus de nourriture qu'il ne faudrait pour nourrir à 2000 calories par jour l'ensemble de la population mondiale. Aujourd'hui, c'est pas un hasard si aux États-Unis il y a 30% d'obèses. Pas parce qu'ils bouffent trop, mais parce qu'ils bouffent mal. Et puis qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui crèvent de faim. Alors qu'on aurait les moyens techniques de produire de la nourriture relativement saine pour tout le monde. C'est pas un aspect technique, c'est un aspect social.
Alors, comment se caractérisent les approches néoclassiques et marginalistes, donc dont les grandes figures sont Walras, Jevons, Menger, Hayek ou Friedman, et pourquoi les critiques-tu?
Alors, en fait, pour moi, Walras est à part, parce que le pauvre Walras, j'ai l'impression qu'aucun néoclassique ne l'a lu, quoi. Enfin, c'est terrible. D'ailleurs, je peux l'affirmer, puisque comme on le disait à la première vidéo, j'ai fait tout le parcours à l'université. Et on se dit néoclassique, mais globalement on lit pas Walras. Donc si on lit le traité d'économie pure de Walras, on se rendra compte que Walras est parfaitement au courant qu'il n'est pas en train de décrire le capitalisme qu'il a sous les yeux. C'est-à-dire que Walras écrit, j'allais dire, une utopie, finalement, d'un socialisme de marché, donc une pure utopie qu'on peut critiquer en tant que telle, mais en tant qu'utopie. L'œuvre de Walras ne peut pas être critiquée en tant que analyse scientifique du mode de production, puisque c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a une phrase de l'introduction de ce livre où il dit la production actuelle, enfin le mode de production actuel ou la société actuelle, je ne sais plus, se targue d'avoir aboli l'exploitation de l'homme par l'homme, virgule, c'est ce que nous allons voir. Sous-entendu, c'est pas du tout le cas. Or, le néoclassicisme, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit un monde en équilibre dans lequel il n'y a pas d'exploitation, puisque le travail et le capital sont supposés être les deux facteurs de production, et que, en fait, quand je rémunère Bernard Arnault, je ne rémunère pas un profit d'un capitaliste oisif, je rémunère le fait qu'il possède l'usine. C'est pas très bien défini d'ailleurs dans la pensée néoclassique, on sait pas bien, parce que dans la pensée néoclassique, on rémunère pas une classe capitaliste, on rémunère le capital directement. Donc c'est un peu bizarre, on paye pas des machines, enfin bon, c'est comme ça.
Comme ceux qui fournissent le capital, les usines, ouais, l'argent, etc. Il faudrait les rétribuer. Voilà. Enfin, ils méritent une rétribution parce qu'ils ont apporté ça, quoi.
C'est ça. Mais dans la pensée néoclassique, c'est pas clair, hein, parce que le profit en gros est égal à zéro dans les conditions normales de circulation du capital, dans leur théorie, je veux dire, hein. pas dans la condition normale de la vie, hein. Dans les conditions normales de leur théorie, il n'y a pas de profit, il y a une rémunération du capital, mais on ne sait pas bien où va cet argent, parce que d'ailleurs on ne sait pas à qui.
Mais c'est ce que tu disais la dernière fois, eux ils disent qu'il faut que le système marche correctement et que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de profit, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, donc en fait, enfin, mais la plus grosse critique qu'on peut leur faire quand même, c'est que tout ce truc-là, donc, qui va se développer au XXe siècle, qui finit par se nier d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'à l'université on fait plus tellement ça maintenant, on fait à peu près n'importe quoi à l'université aujourd'hui, on pourrait y revenir si tu veux, mais on peut pas vraiment prétendre qu'ils soient vraiment néoclassiques au sens strict du terme. Bon. Enfin, on sait pas bien ce qu'ils font. C'est de l'empirisme naïf en fait qu'ils font actuellement. À grand coup d'économétrie et de big data et de machine, enfin néanmoins ça revient à du vieil empirisme naïf. J'observe le monde et le monde me donne directement sa clé de compréhension. Bon. C'est à peu près ça qu'ils font, avec des modèles ad hoc, certes, mais enfin. Mais la plus grande critique qu'on peut faire, à mon avis, c'est cet héritage valrassien, alors que le pauvre Walras, moi je serais même prêt à le défendre, hein, Walras, honnêtement. Hein. En plus, bon, il faut quand même se figurer que Walras écrit son œuvre à peu près en même temps que Marx écrit Le Capital, c'est-à-dire dans une France de la fin 19e. Donc, prétendre que l'héritage de Walras, c'est l'économie capitaliste est en équilibre. Donc il y a deux solutions. Soit on pense qu'il est vraiment stupide, parce que pour écrire un monde en équilibre à cette époque-là, enfin faut y aller quand même, hein, il faut vraiment être dans une tour d'ivoire un peu terrible, quoi. Soit faut vraiment être nul en histoire. Enfin, il n'y a pas d'autre alternative, quoi. Donc évidemment, Walras n'est pas du tout en train d'écrire ça. Walras était en train d'écrire un monde sans exploitation, une utopie socialiste de marché. Mais du coup, elle va être reprise, cette utopie, et donc, finalement, ça va être un moyen pour les néoclassiques de prétendre que le monde dans lequel nous vivons actuellement, certes, a des défauts, mais ces défauts sont toujours des dévoiements du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, si on le laissait marcher tel qu'il devrait marcher, alors c'est formidable. Alors il n'y a pas d'exploitation, alors c'est l'équilibre, alors tout va bien. Et à chaque fois qu'on va constater qu'il y a du profit, qu'il y a, je sais pas quoi, du chômage ou que sais-je, c'est toujours parce qu'on a dévoyé les lois du marché.
C'est un dysfonctionnement du fond.
Voilà, c'est ça. Normal. C'est un dysfonctionnement ce que l'économie néoclassique va appeler des distorsions de marché ou des imperfections de marché. Et le rôle de l'économiste, ça va être d'étudier ces distorsions de marché, ces imperfections de marché, de les cibler, de les voir et de trouver le remède. Voilà. Mais le capitalisme lui-même est en équilibre et n'est pas voué à disparaître. Et au contraire, c'est même l'horizon indépassable d'une société sans classe.
À genoux un peuple ploie sous des tapis de bombe, ma foi, qu'on fabrique chez moi. J'ai une pâle estime de toi quand les petits enfants se noient poussés sur des coquilles de bois par tes raisons d'état. Pas dans des états qui ne marchent plus, où donc pourrait-il bien aller, assis sur des peuples opprimés, car le sucre de canne acquis fut longtemps bien mal acquis, un sucre trop souvent volé à ce sombre passé. Elle n'a plus nulle part où aller, car ses frontières sont fermées. J'ai une Palestine de nous, quand devant un peuple debout, on donne l'ordre de tirer dans son dos pour l'exterminer. Pour bien lui signifier qui est le plus fort. J'ai une Palestine de ces âmes humaines de si peu qui sont mon tuer leur prochain de la main à la main. L'homme a une Palestine de lui quand méthodiquement il détruit. Faut croire que c'est dans l'air du temps, l'avenir de ses enfants. J'ai une Palestine du monde, quand j'entrevois son côté sombre, qu'il est de toutes parts en proie à la folie de petit roi. J'ai une Palestine, genoux un peuple ploie sous des tapis de bombes, ma foi, qu'on fabrique chez moi.
Radio Campus.
Quand on discute des politiques, alors tu sais, je m'énerve.
106,6.
Et donc, la différence entre néoclassicisme, les néoclassiques et le marginalisme, c'est
la même chose. Bon, on ne va pas rentrer dans la technique, hein, mais c'est comment le néoclassicisme définit la théorie de la valeur. C'est défini par l'usage marginal de, par exemple, la valeur d'un verre d'eau, c'est la valeur du dernier verre d'eau bu. C'est-à-dire que si je suis dans le désert, j'ai très soif. Le premier verre d'eau, sa valeur est énorme parce que j'ai très soif. Mais la valeur du dixième verre d'eau, c'est beaucoup plus faible parce que j'ai accès à l'eau. Et donc, finalement, la valeur du verre d'eau décroît à mesure que la quantité d'eau augmente dans le désert, et donc ce qui va faire la valeur, c'est ça.
Donc en fait, c'est comme tu disais dans une précédente vidéo, c'est presque un recul par rapport au classique qui parlait de théorie de la valeur travail. Là, en fait, il n'y a plus vraiment de distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange, c'est l'usage qui va définir la valeur.
Ouais, absolument.
avec un usage qui est de, enfin, oui. une valeur qui va décroître en, avec un usage important, mais
absolument.
Il n'y a plus cette distinction. Quoi.
Absolument. Non, mais c'est un recul, à beaucoup de points de vue. Hein. Ce que je disais la dernière fois, c'est pas parce que c'est postérieur chronologiquement que c'est antérieur du point de vue de la pensée, quoi. Bon, quiconque a fait un peu d'études en économie, y compris au lycée, parce que maintenant c'est au programme obligatoirement de la seconde en général. Normalement, on va comprendre qu'il y a un problème. La première hypothèse, il n'y a pas de profit. Bon, enfin, c'est problématique, quoi. Enfin, et deuxièmement, surtout ce qu'on disait la dernière fois, c'est que, encore une fois, quand je vais constater qu'il y a des problèmes, entre guillemets, enfin, même au sens de Marx, ça n'existe pas, ce truc-là. Puisque, par exemple, quand il y a du chômage, ce n'est pas un problème. C'est le développement normal du capitalisme. Donc, quand je vais constater qu'il y a du chômage, par exemple, déjà, je vais constater que c'est un problème. Ce qui veut dire que il y aurait pu ne pas y avoir de chômage. Donc en fait, je plaque sur le monde une idéologie, une théorie. En fait, je considère que le monde devrait fonctionner comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça, c'est parce que le monde se trompe. Enfin, c'est un point de vue. Mais aujourd'hui, ça reprend énormément. Alors, y compris chez les libertariens, etc., qui vont toujours considérer que, globalement, le capitalisme, c'est le... Enfin, les Trumpistes, ils ont un peu comme ça. Hein. Le capitalisme est un monde formidable, et que si aujourd'hui il y a des problèmes, c'est parce qu'il est dévoyé. Alors en plus, souvent avec des théories du complot d'ailleurs, il y a les hommes de Davos ou je sais pas quoi, enfin des trucs, enfin c'est délirant, enfin il y a une classe de gens qui organise le capitalisme. Oui, cette classe de gens s'appelle la bourgeoisie et souvent t'en fais partie, d'accord. Donc et cette classe de gens est partiellement inconsciente, elle est dépassée par des rapports sociaux. La bourgeoisie, si elle était parfaitement en maîtrise du capitalisme, elle annulerait la loi de la baisse financière des taux de profit. Mais malheureusement pour elle, elle ne peut pas l'annuler, elle y est soumise, donc elle doit s'adapter, et elle navigue un peu à vue, pas forcément complètement rationnellement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La bourgeoisie n'est pas omnisciente, elle ne maîtrise pas le monde tel qu'elle voudrait le voir maîtriser. Bon, donc quand on prétend qu'en fait le monde capitaliste est un monde génial et qu'à chaque fois que les gens sont pas contents ou à chaque fois qu'il y a des distorsions de marché, c'est parce qu'il y a une classe de gens qui fomentent un truc, un complot contre eux. Enfin, des explications délirantes. Hein, mais qui sont parfaitement miscibles dans le néoclassicisme.
C'est important qu'on parle aussi du keynésianisme parce que c'est un courant qui est souvent vu comme un courant de gauche. Et d'ailleurs, même certaines personnes qui se disent marxistes souvent font un peu un mélange entre une lecture de Marx un peu approximative et Keynes. Donc parfois on confond un peu les deux. Quelle différence donc entre le keynésianisme et le marxisme?
Alors le keynésianisme, pour moi, c'est un rejeton d'un économiste qui s'appelait Sismondi, dont Marx, enfin Lénine surtout, parle beaucoup, et il va lui retrancher une partie importante. Donc en fait, c'est du mauvais Sismondi, finalement. Comme aujourd'hui, piketisme est du mauvais keynésianisme, finalement. Le premier point, c'est que il y a, chez Keynes, une possibilité de crise, contrairement à Sismondi, où il y a une inéluctabilité de la crise, mais pas dans le mode marxiste, c'est-à-dire c'est parce que c'est le mode de production qui rentre en contradiction lui-même, c'est parce qu'il y a, chez Sismondi, une contradiction entre la sphère de production et la sphère de circulation. Donc déjà, tu vois, il sépare les deux, Sismondi. Je commence par Sismondi parce que c'est plus intelligent que Keynes. Et après, on verra Keynes. Et Sismondi te dit, à gros traits, la phase de production, elle distribue les revenus de manière parfaitement inégalitaire. Et donc, cette distribution inégalitaire va finir par contracter le marché. Puisque quand je distribue beaucoup plus de revenus à Bernard Arnault qu'à nous, bah Bernard Arnault, il va finir par arrêter de consommer. À un moment donné, il va... Donc finalement, la consommation totale va baisser. Et finalement, la circulation ne pourra pas bien se faire, puisqu'il y aura moins de consommation. Et donc, les deux phases rentrent en contradiction, n'est-ce pas? Et ça fait une crise entre les deux. Donc, Sismondi fait ça. Chez Sismondi, cette crise entre sphère de production et sphère de circulation est inéluctable. Tu vois? Mais contrairement à Marx, qui dit que la contradiction ne se fait pas entre les deux phases, elle se fait dans la phase de production elle-même, avec la loi de la baisse tendancielle des taux de profit. Okay, c'est ça la grosse différence. Keynes, lui, c'est un peu plus débile. Keynes, il comprend pas déjà qu'il peut y avoir une... Mais il dit, bon, globalement, il dit, parfois, ça peut rentrer en contradiction. Donc, parfois, la circulation peut être insuffisante. Donc il n'y a pas assez de demande globale, comme on le dit en langage keynésien. Donc il faut rehausser cette demande globale pour que le profit capitaliste, enfin, il n'y a même pas de profit d'ailleurs.
Pour relancer la machine.
Pour relancer la machine. Bon, donc premièrement, contrairement à Sismondi, c'est pas inéluctable, c'est un hasard, c'est une espèce de choc, d'un seul coup, ça peut être modélisé par exemple par une augmentation de l'épargne de précaution, d'un seul coup les gens se mettent à arrêter de consommer, on sait pas pourquoi, bon bref. Donc en ce sens, ils partagent beaucoup avec le néoclassicisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, d'histoire en process, quoi. Des fois ça rentre en crise, bon, on sait pas bien pourquoi. Donc du coup, souvent ça passe pour être un truc de gauche, parce qu'effectivement, on va dire, bah du coup c'est pas compliqué, il faut augmenter les revenus. Des pauvres, hein, quoi, globalement, le terme, je dis pas prolétaire, parce que prolétaire n'a aucun sens dans le keynésianisme, pour augmenter la consommation. Bon, ça, c'est mal lire le keynésianisme. Le keynésianisme, déjà, dans la demande globale, il y a la consommation, mais il y a l'investissement aussi. Donc, par exemple, si je fais une politique de subvention à l'investissement, comme on le fait, d'ailleurs, il y a des commissions parlementaires en ce moment à ce sujet, c'est pas dommage, d'ailleurs, eh bien, c'est un transfert des pauvres vers la bourgeoisie, parce que globalement, je vais prendre des impôts pour certes subventionner un petit peu l'investissement, mais je vais surtout distribuer du dividende au passage. Donc, je fais un transfert des pauvres vers Bernard Arnault, quoi, globalement. Bon, mais c'est du keynésianisme, en soi. C'est du keynésianisme. Donc ça a été, il y a des configurations historiques qui ont l'apparence de politique de gauche, mais disons qu'on l'y a bien aidé. Parce que dans les années 30, le New Deal, après la crise de 1929, toutes les réformes de Roosevelt, etc., puis le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Bon, là, il y a des historiens qui sont bien mieux qualifiés que moi, qui passent sur cette chaîne régulièrement. Mais bon, d'un point de vue économique, enfin, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, ça a l'apparence du keynésianisme. Il faut relancer la relance, il faut éviter les erreurs des années 20 après la Première Guerre mondiale, etc., parce que c'est ça qui nous a amené à la crise de 1929. Mais d'un point de vue politique, c'est pour contrecarrer la menace rouge, hein. Donc, s'il y a eu de la distribution un petit peu progressiste, c'est parce qu'on a tordu le bras à la bourgeoisie et qu'on l'a obligé à le faire, n'est-ce pas? Donc souvent ça passe pour être de gauche parce que la configuration dans l'état des luttes à l'époque des politiques keynésiennes a dû être pour une part progressiste, mais c'est pas dû du tout à la théorie keynésienne en soi. La théorie keynésienne, je veux dire, Reagan, il prend le pouvoir, tu regardes la dette américaine sous Reagan, elle explose, d'accord? Oh, c'est du keynésianisme, ça, c'est les politiques de relance, hein. C'est les politiques de relance par le déficit budgétaire. Je fais du déficit budgétaire comme un malade, parce que je baisse les impôts, d'accord, et puis que globalement je ne touche pas aux dépenses publiques, parce que les dépenses publiques c'est ce qui me permet d'assurer l'écoulement de la marchandise, etc. Alors ça me permet de dire un autre truc. Ça ne veut pas dire que dans le marxisme, il n'y a jamais de contradiction avec la sphère de circulation. Si on veut le dire autrement, il peut y avoir dans le marxisme une pénurie de la demande. Mais cette pénurie de la demande, elle est à comprendre comme conséquence de la contradiction dans la sphère de production, c'est-à-dire de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que ça peut être une forme en surface, j'allais dire, épiphénoménale, on dirait, de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit.
De l'exploitation et de la surproduction.
Voilà. Mais c'est pas une contradiction en soi entre une sphère de production et une sphère de circulation. C'est une contradiction qui apparaît en seconde instance à cause de la contradiction qu'il y a dans la sphère de production. Je vais en faire la démonstration rapide, disons la démonstration la plus rapide à laquelle je puisse penser. Si vraiment c'était une contradiction entre la sphère de production et la sphère de circulation, si c'était ça, que faudrait-il faire? Eh bien, c'est pas très compliqué, il suffirait constamment d'augmenter les salaires. Sauf que, il y a une contradiction dans la phase de production, qui est qu'il y a une loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Et que si j'augmente les salaires, alors je baisse le taux de profit de rechef. N'est-ce pas ? Donc la raison pour laquelle je ne peux pas continuellement augmenter les salaires, comme le préconiserait un mauvais keynésien, en fait, c'est parce qu'il y a une contradiction dans la phase de production. Parce que s'il n'y a pas cette contradiction dans la phase de production, alors je peux augmenter les salaires. Parce que je finis par ça, la chose que j'ai oublié de dire qui me tient à cœur, souvent je suis critiqué par rapport à ça, mais c'est pas grave, je tiendrai la barre jusqu'au bout. La loi de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est la traduction capitaliste de la lutte des classes. C'est-à-dire que c'est égal. C'est la raison pour laquelle, égal au sens mathématique. Pas égal au sens, je m'en fous, c'est égal au sens mathématique. C'est la raison pour laquelle ça arrive à la fin du Capital. C'est parce qu'après avoir analysé tout ça, après avoir regardé tout ça, on arrive à la fin à la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. La loi de la baisse tendancielle du taux de profit, elle dit cette chose, si je veux la synthétiser. Toute chose étant égale par ailleurs, donc je dis bien toute chose étant égale par ailleurs, je ne peux pas augmenter les salaires et le profit en même temps. C'est ça la lutte des classes. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'augmente les salaires, je baisse le profit, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire sans développement des forces productives, sans développement de la production, etc. C'est-à-dire que si je le mets en dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux augmenter les salaires et le profit en même temps, mais en augmentant le taux d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a des phases dans le capitalisme, notamment les 30 Glorieuses, où la production augmente beaucoup, et donc les salaires peuvent augmenter. D'accord? Mais les salaires augmentent moins vite que la production. D'accord? Ce qui veut dire que le taux d'exploitation augmente. Et en fait, la vraie mesure dynamique, c'est le taux d'exploitation qui compte. Okay? Donc si je le fais toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si je fixe mon équation, la loi de la baisse annoncée du taux de profit, elle veut dire que je ne peux pas augmenter les salaires et les profits en même temps. Donc, et ça c'est exactement la définition de la lutte des classes. Okay? Bon. Donc, c'est pour ça que ça finit par être des trucs réactionnaires, le keynésianisme. Parce que finalement, en niant la contradiction qu'il y a dans la phase de production, je suis en train de nier la lutte des classes. Et d'ailleurs, le terme de classe chez Keynes peut revêtir un peu parfois certains aspects quand il dit qu'il faut euthanasier les rentiers, etc. Mais en fait, un petit peu comme Malthus en son temps, il est plus la traduction des rapports sociaux capitalistes que le capitalisme a engendré lui-même dans son développement. Et en fait, il va regretter un petit peu ce développement plutôt que l'analyse...
Il voudrait revenir à un capitalisme concurrentiel. Quoi.
Voilà, c'est ça. Constamment revenir à un capitalisme concurrentiel. Sans comprendre que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui un Keynésien... Moi, je prétends que le keynésianisme a gagné en 1930 et qu'en fait, aujourd'hui, dans les sphères de pouvoir, il n'y a plus aucun néoclassique. Y compris chez ceux qui se prétendent libertariens, néoclassiques, etc. Enfin, Trump, c'est un keynésien. Trump, il va augmenter la dette, hein, clairement. En dehors du fait qu'on comprend pas bien ce qu'il fait, donc il faut toujours s'en remettre en dernière instance à ces explications-là, mais il y a quand même, à mon avis, une part de folie chez ce type, parce que il est quand même en train d'effondrer ses marchés financiers pour le moment, donc même la bourgeoisie n'a pas l'air complètement d'accord avec ce qu'il fait. Mais indépendamment de ça, parce qu'encore une fois, il n'est pas complètement conscient de ses intérêts, il faut jamais trop idéaliser l'adversaire. Hein. La classe bourgeoise n'est pas homogène, elle n'est pas consciente parfaitement de ses intérêts, etc. Mais à la fin, je te fiche mon billet que Trump, il aura juste baissé les impôts, qu'il n'aura pas baissé le déficit, qu'il n'aura pas baissé la dette américaine, et qu'il aura fait à peu près comme Reagan, c'est-à-dire qu'il aura augmenté le déficit. Bon, c'est du keynésianisme, de droite certes, mais enfin c'est du keynésianisme quand même.
C'est pas la fin des haricots, c'est le début des emmerdements. Gloire à tous les petits boulots, vive le sacre du plein temps. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche, pognon fric aux aïatiches. J'ai le no flues blues, oui j'ai le no flues blues, no flues blues. Mais comment dire à sa banquière qu'on a surtout gagné du temps? Moi, si j'ai vendu père et mère, après tout, c'est que pour l'argent. C'est pas de ma faute, j'en veux des tonnes. Mais l'homme est un relou pour l'homme, et j'ai le no flues blues. J'ai dû me lever le matin, avant midi. J'ai pris des risques. Et puis comme le travail des uns fait toujours le bonheur du fisc, il faut voir la gueule de l'emploi. J'ai fait chômeuse à plein temps, et puis femme de ménage à trois. Mais à laisser, c'est gratifiant. Oui, enfin bref, toutes les besognes, et même la belle au bois de Boulogne. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche, pognon fric aux aïartiches. J'ai le no flues blues, ouais j'ai le no flues blues, no flues blues, c'est ça le no flues blues. Mais comment dire à ses amis qu'on leur devra toujours des ronds? La seule chose qui différencie le riche du pauvre, c'est le pognon. Du coup je rumine mes angoisses, mais bon, ça nourrit pas des masses. Alors le no flues blues, c'est pas toger dans les dettes, parce que le vol, c'est pas prudent. Puis l'important, c'est d'être honnête quand on peut pas faire autrement. Alors bien sûr, mon compte est vide, mais pour un précaire parvenu, faut bien avouer que le liquide, c'est surtout fait pour être bu. Ça sert à rien, mais ça soulage quand t'as la bosse du chômage. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche, pognon fric aux aïartiches. J'ai le no flues blues, ouais j'ai le no flues blues, no flues blues, c'est ça le no flues blues. Et puis comment dire aux impôts qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie? Les fringues, les pompes et les restos, j'y peux rien si c'est pas gratuit. Et puis d'abord c'est personnel si j'ai des frais super réels. Et puis le no flues blues, j'irai du côté obscur de la force d'inertie. Jusque-là, j'étais bien trop pure. surtout qu'en toute modestie, gagner sa vie sans rien branler à la seule force du poignet, c'est tout un art évidemment. Et si la thune vient en dormant, oui, je prendrai quelques mécènes et l'Helvétie pour une lanterne. Au nom du pèse, du fric et du saint Grisby, je donnerai cher pour être riche, pognon, fric, oseille, artiche, et j'ai le no flues blues. Ouais, j'ai le no flues blues. No flues blues. C'est ça le no flues blues. Et vu qu'en plus on est nombreux, c'est pas la joie, mais pour info, si le monde appartient à ceux dont les employés se lèvent tôt, alors on était prévenus. Chance promise, chôme due.
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
J'aimerais qu'on vienne sur la question du protectionnisme, parce que c'est quelque chose qui est promu par toute une partie de la gauche. Alors, est-ce que notamment dans un contexte de mondialisation capitaliste, donc est-ce que pour toi ça peut être une solution le recours au protectionnisme, et est-ce que si on veut une politique de progrès social, il faut faire du protectionnisme?
Non.
Question suivante.
Non, c'est pas ça. Non, c'est, non, mais ça veut pas dire qu'il faut faire des libre-échanges. C'est-à-dire que quand on pose cette question-là, on se met dans les pas de l'économie bourgeoise, c'est-à-dire qu'en fait, le protectionnisme, où est-ce qu'il intervient? Dans la sphère de circulation. Et donc, on est en train de penser qu'on va pouvoir réformer le capitalisme. Le capitalisme en soi n'est pas réformable, au sens où on l'entend. J'oublie toujours la citation, mais Lénine dit il y a des choses qui ont eu l'aspect de la réforme, mais en fait, ces réformes, ce sont des retombées de la lutte des classes, quoi, et de la conscience révolutionnaire. On n'a jamais demandé gentiment au capital de créer la sécurité sociale, etc. Donc aujourd'hui, faire du protectionnisme en soi, le seul truc que ça va faire dans la configuration actuelle du capital, c'est de créer de l'inflation sur les marchandises importées, ce qui revient à baisser le niveau de vie de la population générale. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'on ferait du protectionnisme ? Ce serait pour relocaliser les usines, dont ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que globalement ça reviendrait à baisser les salaires, réels en tout cas, ok ? Et ça permettrait à une certaine partie de la bourgeoisie nationale de redorer un petit peu le blason, quoi, et de reproduire. Mais à quel prix ? Moi, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique. C'est-à-dire que faire du protectionnisme dans la configuration actuelle du capitalisme, ça revient à baisser les salaires, quoi, globalement. En tout cas, les salaires réels. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse ça, mais je vois vraiment pas l'intérêt. De plus, si on voudrait vraiment le faire sans baisser les salaires, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire du protectionnisme avec un contrôle du capital. Bon, ça, ce serait, j'allais dire, un capitalisme un peu bridé, quoi. Ce serait pas révolutionnaire, ce serait pas du communisme, ce serait un capitalisme un peu bridé. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu comment fonctionne le parlementarisme, comment fonctionnent toutes les institutions politiques, pour trouver une assemblée qui vote un contrôle des capitaux en France, il va falloir se lever de bonne heure, quand même, hein. C'est pas pour après-demain, quand même. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on arrive, on met des droits de douane, qu'est-ce que ça va faire? Ça va baisser les salaires, quoi. C'est tout ce que ça va faire. Ça va profiter à une certaine partie de la bourgeoisie, ça va, encore que cette bourgeoisie, elle est quand même en miettes, hein, parce que la bourgeoisie industrielle nationale, elle est très très agitée, mais elle est très agitée parce qu'elle est en déliquescence totale, hein. C'est pour ça qu'elle s'agite, qu'elle sait pas bien où elle va, qu'elle court un peu comme un poulet sans tête, qu'elle erre entre éloge des gilets jaunes et puis fascisme, quoi. Enfin, c'est parce qu'elle n'existe plus, elle a plus de base sociale, cette bourgeoisie. Donc ça va être compliqué quand même, hein. Donc si on fait que du protectionnisme aujourd'hui, ça va baisser les salaires réels, point. C'est tout ce que ça va faire.
Par contre, on ne s'attaque pas à l'action de la propriété,
ça sert
à la nationalisation,
ça sert
etc.
Rien. Le protectionnisme, c'est une modalité du libéralisme, même si ce terme est mal défini. Le protectionnisme, c'est une modalité du libéralisme.
D'ailleurs, les États-Unis sont le plus impérialistes, ils ont toujours eu une part de protectionnisme importante.
Ah, toujours. Mais y compris, tout le monde dit Trump revient au protectionnisme américain, c'est une blague. Les États-Unis ont toujours été protectionnistes. Effectivement, Trump, il lui donne un côté irrévérencieux. On comprend rien à ce qu'il fait parce qu'il met 25, 50, 25. Et un économiste qui s'était amusé à faire un graphique. Donc le truc, il part de 25, il va à 50, il redescend à 25. Et en bas, l'échelle du temps. Donc normalement, dans l'histoire du Capital, des telles amplitudes, c'est en décennies que ça se... Là, c'était en heures. Parce qu'en fait, dans la journée, il met 25, après il met 50, après il revient à 25. Bon. Donc il y a le côté irrévérencieux, il y a le côté... Il y a le côté foutoir qu'on comprend pas bien, mais en soi, les États-Unis ont toujours été protectionnistes. Ils ont pas. D'ailleurs, il y a qu'à voir ce qu'on appelle le taux d'ouverture en économie, c'est-à-dire importation-exportation par rapport au PIB. Les États-Unis sont une économie fermée.
Ouais, en fait, on voit bien que c'est libre-échange protectionniste, c'est deux modalités en fait du libéralisme, comme tu le dis.
Ouais.
Mais même dans des pays socialistes qui auraient fait une révolution, résister à l'impérialisme, etc. Comme Cuba par exemple, mais c'est peut-être pas le bon exemple, mais parce qu'il y a le blocus, mais il pourrait très bien faire du libre-échange avec certains pays, être plus protectionniste vis-à-vis de certaines marchandises.
Bien sûr.
Voilà, en fonction de ce qu'ils produisent et des échanges qu'ils veulent avoir avec d'autres pays, mais c'est pas propre au capitalisme, au communisme. Quoi.
Oui, bien sûr. Puis après, bon, y a une question de définition aussi. Qu'est-ce que c'est que le protectionnisme ? C'est-à-dire que dès l'instant que je mets 1% de droits de douane, c'est pas du libre-échange. Enfin bon, ça n'existe pas. Les droits de douane sont jamais, enfin ils sont près, proches de zéro au niveau mondial là, mais ils sont jamais totalement à zéro. Et puis de toute façon, j'ai plein de substituts aux droits de douane, ce qu'on appelle aujourd'hui des mesures non tarifaires. Donc je vais mettre des clauses environnementales, sociales, etc. Des clauses d'origine. Par exemple, je sais pas, mais clairement, bon, je vais vraiment prendre le petit bout de la lorgnette, mais en France, je sais que ça compte beaucoup. Les AOP sur les fromages, c'est du protectionnisme. Hein. C'est une forme de protectionnisme.
D'ailleurs, Marx disait que c'était pas la bonne question à se poser, mais que si vraiment il fallait répondre, il serait plutôt en faveur du libre-échange.
Oui, parce qu'il exacerbe les contradictions du capital, voilà. Dans le discours sur le libre-échange.
Ça accélère les contradictions, ça amène peut-être plus rapidement à la révolution, alors que le protectionnisme, ça essaie de revenir à un système peut-être antérieur.
Oui, alors pour moi aujourd'hui, c'est neutre cette question, parce qu'on n'écrit pas, on parle pas dans la même époque que Marx. Pour moi aujourd'hui, c'est neutre cette question, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, de toute façon, ça va dégrader le sort des prolétaires. Parce qu'en fait, les forces qu'il y a derrière, les forces de baisse en sociétés produits sont telles que de toute façon, que tu mettes 10 ou 20% de droits de douane, ça ne change rien. Donc ta situation objective va se dégrader. Si tu fais du libre-échangisme, elle va se dégrader parce que soit tu vas faire du chômage, soit tu vas baisser le salaire nominal. Si tu fais du protectionnisme, ta situation va se dégrader. Tu ne vas pas toucher au salaire nominal, mais tu vas probablement faire du chômage parce qu'aujourd'hui, en fait, pour produire, il faut importer. C'est-à-dire qu'on n'importe pas que des marchandises finies, on apporte aussi beaucoup de matières premières et de produits intermédiaires. C'est la raison pour laquelle hier, par exemple, je sais pas quel jour on est, mais hier, Trump a annoncé 25% de droits de douane sur les automobiles. General Motors s'est effondré. Pourquoi ? Parce que General Motors, c'est pas juste des bagnoles qui s'échangent. J'importe des composants. Voilà, donc ça s'effondre. Comme il y a une incertitude sur la politique commerciale, ça s'effondre. Aujourd'hui, si tu fais des droits de douane, ce que tu vas faire, c'est que tu vas baisser les salaires parce que tu vas créer de l'inflation. Bon, donc, enfin, c'est vraiment pas la bonne question à se poser cette affaire. Et d'ailleurs, souvent, quand on pose cette question-là, les gens qui prônent ces mesures, que ce soit protectionniste ou libre-échangiste, du reste, sont des gens qui vont parler de la France, de l'Europe. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Dans une certaine mesure, ça nous intéresse, mais enfin, il faut bien comprendre que. La France, ça n'existe pas, d'un certain point de vue économique. Il y a des classes en France qui ont des intérêts divergents. Enfin, moi, mes intérêts personnels, c'est pas les mêmes économiques, c'est pas les mêmes que Bernard Arnault. Je peux avoir des intérêts personnels en commun, d'ailleurs, on peut aimer la même musique, la même peinture, la même littérature, ça c'est autre chose, ok. Nos intérêts économiques sont complètement opposés, quoi. Donc la France, ça veut rien dire, quoi. Il n'y a pas d'intérêt qui synthétise, il n'y a pas une moyenne des intérêts entre Bernard Arnault et moi.
Alors pour finir, une petite question bonus, je sais que tu n'aimes pas utiliser le terme de néolibéralisme qu'on entend en permanence, notamment à gauche, pour décrire la phase actuelle du capitalisme, alors pourquoi ?
Alors c'est pas le terme en soi qui me fâche, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout ce qu'on met derrière le terme néolibéral.
Les deux chanteurs du groupe NTM, Nick Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français.
Scandale avec les syndicats policiers, premier scandale, espèce de bogie de femme de flic. Deuxième scandale en 95 dans le deuxième CD, donc qui s'appelait 95200, avec Sacrifice de poulet.
Monsieur R, dont le dernier album, politiquement incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud.
Nicolas Sarkozy a même aussi annulé le concert qui devait avoir lieu la semaine dernière. Les membres de Sniper ont évidemment répliqué aussitôt.
La rumeur existe depuis 1996. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous. Il y aura un procès parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ».
La chanson de Youssoupha, il faut la citer quand même. C'est « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». C'est une menace de mort.
Les accusations sont graves, et comme d'hab, on fait avec. C'est vrai qu'on est trop hard, et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est les seuls sons hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indices, les dizaines chantent le mal. Et dans leur bêtise, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que du slam. Coupable idéal, MC mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale comme Monsieur R. Pas facile d'ignorer ça, pas facile d'opérer seul à la place de Orelsan. Moi c'est clair que j'aurais le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Je défends la cause des frères au sud qui rêvent du nord, mais ma liberté d'expression en chute est sous menace de mort. Yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de danse irrémédiable. Sont inégales, je fais du rap et ce que t'entends est illégal. Hier, yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Hier, yeah, les temps sont inégales, je fais du rap et ce que t'entends est illégal.
Je pense que le rap est une sous-culture, hein, d'analphabète. Mais je suis désolé, vous avez déjà entendu les paroles des rappeurs.
Depuis le temps, j'étais ce type qui vous mène à la baguette, mais parle de rap en tête et puis nous traite d'analphabète. J'ai dit que j'étais du genre à réagir sur le BPM. J'ai le temps pas la joue comme celui qui a vu le jour à Bethlehem. Une seule ligne, t'as force de le dire, où j'exprime tout mon mépris et là ça morce le délire. Des mots accusateurs pour les rappeurs, j'en retrouve 10 000. C'est vrai qu'on touche le fond, j'ai ce bouffon de Morandini, mais sans rancune. De ma plume, je connais le tarot, et la droite se déchaîne, m'affiche à la une du Figaro. Encore un article pour faire mentir le baromètre, qui me confirme que certains journalistes de merde sont malhonnêtes. Nous sommes pas du même monde, l'hexagone va mal, mais j'espère pas que mon prénom vous a subitement rappelé celui de Fofana. Et la police aboie pour que le tribunal me morde. Ça suffit pour qu'un juge m'inculpe pour menace de mort. C'est ça, yeah, mais il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de danse irrémédiable. Les sentences sont illégales. Je fais du rap et ce que t'entends est illégal. Hier, yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Hier, yeah, les sentences sont illégales. Je fais du rap et ce que t'entends. Bien sûr qu'il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a de la rage dans nos propos,
mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose?
J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition.
Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose? Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Noir désir.
Radio Campus.
Ne formons-nous pas, surtout vous, une grande chaîne de fraternité prolétaire? Non vraiment, camarade, pourquoi une grève?
106,6.
Le terme néolibéral, aujourd'hui, il est employé pour dire que, dans les années 80, parce que globalement, c'est à peu près la date de naissance du libéralisme, avec la contre-révolution conservatrice.
Le néolibéralisme.
Le néolibéralisme, oui. Ce serait une phase, j'allais dire, dévoyée du capitalisme. Donc là, on va s'intéresser plutôt à des théories de la régulation, par exemple. Donc Alietta, Boyer, Lordon. Enfin, un certain Lordon quand il écrivait des livres en économie. Notamment, je pense au livre sur l'euro, dans lequel il a une introduction, où il dit que, finalement, aujourd'hui, sortir du capitalisme, c'est une tâche trop importante, et il faudrait d'abord sortir du capitalisme néolibéral. sous-entendu pour revenir à une forme antérieure de capitalisme que la théorie de la régulation appelle keynésiano-fordiste, donc la phase des Trente Glorieuses, quoi.
Il parle notamment de protectionnisme,
voilà.
Ce truc-là, quoi.
Donc il faut, globalement, il faudrait repasser les plats, il faudrait que l'histoire repasse les plats et qu'on retourne en arrière. Parce que, en fait, le néolibéralisme serait certes une configuration du capitalisme, mais serait une configuration du capitalisme qui a été, entre guillemets, choisie politiquement. Alors moi, c'est contre ça que je lutte, en fait. Donc je veux bien qu'on emploie le terme néolibéral, je m'en fous. Mais si on emploie ce terme en disant que ce qui se passe depuis les années 80, c'est le développement normal du capitalisme. Les taux de profit s'effondrent avec la stagflation, il faut retrouver des marges de manœuvre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais abolir toutes les barrières internationales, je vais abolir toutes les régulations financières, je vais développer le capital usuraire, je vais développer la circulation des marchandises à l'échelle internationale, je vais enrôler dans la production capitaliste. Surtout que, a priori, je ne peux plus trop les coloniser parce que je suis en train de me faire botter le cul à peu près partout dans mes colonies. Donc je vais les enrôler dans la production capitaliste mondiale, ce qui va me permettre de délocaliser mes usines, de faire pression à la baisse sur les salaires. La part salariale dans le PIB, dans l'ensemble des économies capitalistes, alors c'est surtout aux États-Unis que ça se voit, baisse, etc. Alors si on me dit qu'effectivement, ça s'appelle néolibéralisme, cette phase du capitalisme qui est nécessaire dans son développement, alors le mot, je veux bien le prendre. Mais si on me dit que c'est une pure volonté politique de quelques gens qui auraient fomenté ça dans la société du Mont-Pèlerin, parce que c'est ça hein, l'idée, hein, tu lis le livre de François Denor qui est un sociologue, vous êtes pote avec leur nom d'ailleurs je pense, sur ce truc-là, puis même dans l'ensemble des trucs, hein, même David Harvey, etc., quand on emploie qui se prétend marxiste pourtant, quand on emploie le terme de néolibéralisme, c'est un peu ça qu'on a derrière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de penseur de ce truc-là? Évidemment, il y a toujours derrière une pensée, il y a toujours derrière un tampon juridique, on prend des lois, évidemment. Mais en fait, la vraie question, c'est le capitalisme aurait-il pu survivre s'il ne s'était pas configuré ainsi il y a maintenant presque une cinquantaine d'années? Bon, la réponse est non. Je finis par ça. D'ailleurs, on vit dans une phase un petit peu bizarre, puisque globalement, depuis 50 ans, on prend des mesures qui sont, on va prendre des termes, j'allais dire, du langage courant, qui sont des mesures libérales, sont des mesures de droite, quoi. Donc on pète les services publics, l'État se désengage d'à peu près partout pour revenir sous une autre forme qui est prônée par le néoclassicisme notamment, qui est l'État régulateur, c'est-à-dire c'est pas l'État qui produit directement, qui s'ingère dans la production, il va juste mettre en place des régulations, etc. Tout ceci est prôné normalement par le néolibéralisme, le néoclassicisme, disons, j'allais dire, par l'école libérale. Et aujourd'hui, on a une pensée libérale qui arrive et qui dit « Oh ! Vous vous rendez compte, l'appareil d'État a grossi énormément, il y a des lois, il y a des règles partout, il y a des réglementations partout, il y a des impôts partout, et pourtant il n'y a plus de services publics, etc. Ouais, mais mon coco, c'est exactement parce qu'on a fait ce que tu prônes depuis 50 ans. D'accord ? Donc aujourd'hui, en fait, c'est un effet de cliquet pour eux. C'est-à-dire que je développe l'appareil d'État en faveur de la bourgeoisie, et puis aujourd'hui, je constate que l'appareil d'État, c'est 50% du prélèvement sur le PIB, donc je dis oh, l'État est trop gros, je confonds État et appareil d'État. Et puis en fait, après je vais péter l'État, mais en pétant finalement ceux qui restent de progressistes dans l'État, par contre qu'on dépense des milliards pour fabriquer des armes, faire des subventions aux entreprises, etc., ça il n'y a aucun problème. Mais en fait, et donc finalement aujourd'hui on a des mecs de gauche, au sens où on l'a défini tout à l'heure, donc des keynésiens qui disent « on est dans un capitalisme trop libéral, on est dans une phase néolibérale, il faudrait revenir à un capitalisme bridé, etc. » Et puis en même temps, on a des mecs de droite, des libéraux qui disent « mais n'importe quoi, on vit presque dans le socialisme en France parce qu'il y a 50% de prélèvements ». Mais on s'en fout qu'il y ait 50% de prélèvements. Ce qu'il faut, c'est savoir à quoi on utilise ces prélèvements. Pourquoi sont-ils là? Quelle est la différence entre l'État et l'appareil d'État? Est-ce que, par exemple, la dîme, la taille et la gabelle, c'était du socialisme? Enfin, c'est des conneries, ça. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a de l'impôt que c'est du socialisme. C'est pas parce qu'il y a un État que c'est du... enfin, un appareil d'État, plus exactement, que c'est du socialisme. Aujourd'hui, le capital est dans un cycle de valorisation qui est tellement faible, avec un taux de profit qui est tellement bas, qu'il est obligé, ce que j'appelle dans mon bouquin des formes détournées de l'exploitation capitaliste, qu'il est obligé de faire appel à l'appareil d'État pour pouvoir se valoriser. Donc je vais ponctionner de l'impôt, et qui paye l'impôt? C'est pas Bernard Arnault, hein. Ça, il y a des études statistiques qui montrent que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, c'est 0,2% d'impôt. D'accord? Donc qui paye l'impôt globalement? Bah, c'est les prolos, quoi, les mecs qui sont solvables, donc ceux qui vivent encore à peu près correctement, c'est les, ce qu'on appelle les petits patrons, bref, c'est jusqu'à je sais pas quel niveau de revenu, mais enfin, c'est pas la très 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 haute bourgeoisie, mais aussi y compris la, les couches moyennes. Je suis pas en train de dire que tout ceci est homogène. Mais globalement, aujourd'hui, l'impôt sert à ça, sert à financer un appareil d'État qui n'est pas un État. C'est pas parce qu'il y a un appareil d'État qu'on vit dans le socialisme. Et donc c'est pour ça que je suis contre le terme néolibéralisme, parce que finalement, on finit par rien comprendre. Et donc, le, la phase dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une phase normale du développement du capitalisme, avec une phase de, entre guillemets, libéralisation, c'est-à-dire je vais péter l'État, mais pas au profit du marché, au profit de l'appareil d'État. Okay, c'est pour ça que quand on confond capitalisme et marché, en fait, on comprend rien. Je ne vais pas dire qu'il peut y avoir du capitalisme sans marché, ça serait bête. Mais pour une part, on pourrait le dire presque en première instance, il peut y avoir une ponction capitaliste qui est prise directement par l'État et redistribuée à la bourgeoisie, qui ne passe pas par une économie marchande. Hein. Bon, dans les faits, ça ne se passera jamais, c'est jamais comme ça. Mais disons que aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a un développement extravagant de l'appareil d'État qu'on est passé dans un truc socialiste.
C'est ce que Marx explique, où il dit que le développement de la dette publique, ça correspond à la naissance du capitalisme, en fait.
Mais bien sûr.
Dès le départ.
Bien sûr, évidemment. Évidemment. Et aujourd'hui, je veux dire, si aujourd'hui quelqu'un arrive et dit je vais baisser la dette publique comme ça, ah, je te fiche mon billet que le CAC 40 s'effondre. Parce que si je baisse la dette publique, bah, il n'y aura personne pour acheter les parfums de Bernard Arnault, il n'y aura plus de subventions pour Bernard Arnault. Je prends Bernard Arnault parce que quand il est rentré, là, quand il a fait son, il a eu sa petite heure de gloire au début d'année, quand ils ont présenté les résultats de LVMH, globalement, il a dit, il a menacé de se barrer, quoi. Il a menacé de se barrer aux États-Unis parce que là-bas, il serait accueilli à bras ouverts. Et donc, les médias ont surtout retenu le fait que là-bas, il y avait une baisse des impôts sur les sociétés. Mais il dit autre chose, Bernard Arnault, il dit aussi, on nous propose des subventions.
Ça change tout. Et juste pour revenir sur les économistes keynésiens, ce qui me semble fondamental aussi de comprendre, c'est que eux, quand tu dis qu'ils veulent revenir, bon, en tout cas, ils disent que c'était mieux dans le capitalisme d'après la Deuxième Guerre mondiale, etc., qui n'était pas encore le néolibéralisme. En fait, ils ne voient pas du tout que c'était mieux aussi parce qu'il y avait un PCF à 30%, qu'il y avait l'URSS, et qu'il y avait des progrès sociaux énormes liés au socialisme.
Ah, il y avait, oui, il y avait la lutte, quoi, qui fait qu'à un moment donné, bah, t'es obligé de lâcher un petit peu si tu veux pas perdre le, si tu veux pas perdre le pouvoir, quoi.
Et qu'on comprend beaucoup mieux la phase qu'on appelle le néolibéralisme si on voit que c'est une contre-révolution, en fait.
Oui, bah, y compris en interne, même sans parler des équilibres internationaux, qui évidemment, enfin pour moi, c'est assez rapidement conclu. Mais si on regarde le taux de syndicalisation, il s'effondre. Donc bon, c'est pas étonnant que les salaires baissent, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué, hein. c'est presque mécanique, là, pour le coup. Et alors, il y a un truc d'ailleurs qui m'épate aujourd'hui dans la pensée libertarienne, c'est que globalement, ils sont toujours en train de regretter l'époque d'aujourd'hui. Enfin, jusqu'aujourd'hui, ils disent on a perdu les libertés. Mais alors, du coup, ils parlent de quand? C'est quand qu'ils ont perdu des libertés? Parce que je te signale que pendant les 30 Glorieuses, t'étais beaucoup plus muselé que ça, hein, toi, capitaliste. Donc, j'arrive pas à comprendre ceux qui regrettent. À la rigueur, les seuls que je trouve cohérents, c'est ceux qui veulent revenir presque au Moyen-Âge, où là, bon, bah, l'espérance de vie était à 35 ans, on était édenté à 20 ans, enfin, sauf encore que les seigneurs, même l'hygiène, enfin, c'était après, c'était la Renaissance, Louis XIV, mais enfin, même l'hygiène de Louis XIV laissait à désirer, quoi. Donc, moi, j'ai aucune envie de revenir à cette époque-là, quoi. Donc, il y a une espèce de contradiction qui se voit aujourd'hui beaucoup plus dans la pensée dite de droite que dans la pensée de gauche. Mais dire, je regrette le développement aujourd'hui du capitalisme parce qu'il a été dévoyé par une... D'ailleurs, on n'est pas très loin des théories du complot après, hein, parce que dès l'instant que tu dis qu'il a été dévoyé par une classe d'énergumènes donc qu'on ne sait pas très bien identifier d'ailleurs, parce que globalement on nous dit bon, c'est je sais pas quoi, c'est l'organisation d'une certaine classe, alors tantôt c'est les fonctionnaires, donc l'ensemble des fonctionnaires auraient le pouvoir en France, tu vois. C'est un peu, vu comment les fonctionnaires sont payés, c'est quand même ou alors tantôt c'est une certaine partie de la bourgeoisie. Donc là, souvent, on va revenir à des trucs antisémites, hein, partie de la bourgeoisie cosmopolite, tu vois, c'est, voilà, donc ça confine assez rapidement à l'antisémitisme, ce truc-là. Mais enfin, bon, même d'un point de vue logique, on n'arrive pas bien à comprendre ce qu'ils regrettent, quoi. On a perdu nos libertés, dans les 30 Glorieuses, mais t'avais beaucoup moins de liberté du capital qu'aujourd'hui, hein. Donc moi, dans une certaine mesure, je veux bien qu'on revienne à un certain muselage du capital, hein, si tu le regrettes.
C'est pour ça qu'il faut aller au socialisme.
Oui, voilà. Effectivement, tout ça pour finir, en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. En fait, la phase qu'on vit est une phase de développement normal du capital, qui n'est pas mécanique, dans le sens où, comme tu le rappelais, il y a aussi un état des forces politiques, okay, qui a permis le fait que bah, ça aille très très vite. Qu'en 50 ans, on est en train de perdre à peu près tout. EDF, Macron a failli vendre les barrages hydroélectriques, les conquêtes sociales, la retraite, etc. Donc,
effectivement, ils veulent une retraite à 70 ans pour financer la guerre.
Oui, voilà. C'est ça. Donc il y a aussi une configuration politique qui fait que le capital a pu avancer ses pions assez rapidement. Et puis c'est d'ailleurs assez habile de sa part de capturer l'État à son profit pour le transformer en appareil d'État. Et puis dans la propagande de confondre tout ça, c'est-à-dire que l'État et l'appareil d'État, c'est la même chose. Donc globalement, soigner gratuitement des enfants qui ont cancer, c'est la même chose que filer du CICE à Bernard Arnault, parce que la dépense publique, bon bah ma foi, que je soigne un enfant qui a le cancer ou que je file du pognon à un milliardaire, c'est de la dépense publique. C'est la même chose. Donc confondre tout ça, et puis après dire « Ah, c'est trop gros !» Et donc finalement, pour finir par arrêter de soigner,
l'enfant. Sociale,
quoi, voilà. Donc c'est pour ça que quand on parle d'État, de dépenses publiques, sans séparer au moins État et appareil d'État, donc au moins comprendre ce que fait l'État, ou ce que fait l'appareil d'État, ce sont deux choses différentes, on ne comprend rien. Et ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des prélèvements publics obligatoires, parce que quand on dit prélèvements obligatoires, ça c'est un autre détail, mais on ne s'intéresse jamais aux prélèvements privés obligatoires. Parce que l'assurance sur la maison, on est obligé de la payer. L'assurance sur la voiture, on est obligé de la payer, n'est-ce pas? On est obligé. En France, en tout cas, on est obligé. Donc ça fait partie des prélèvements obligatoires, n'est-ce pas? Mais ils sont privés, alors bon, ça gêne personne. Bon, bon, enfin bref, voilà. Voilà pourquoi j'aime pas le terme néolibéralisme.
C'est fait d'hiver, étoile froissée, macadam hurlant, désespoir, qui mélange les larmes au sang.
Entre la lune et le soleil, une étoile vient de s'éteindre, sur cette route qui s'arrête, que de tristesse.
C'est un bouquet de saisons, qui a perdu toute sa raison, au même moment dans la maison, le vide se fait une place.
Sur le buffet pose une photo, en effigie des souvenirs, avec un sourire d'enfant, de l'innocence. De la nuit, c'est une étoile qui se brise, comme le verre à même le sol, c'est plus d'amis, c'est plus de vie.
Comment veux-tu, sans elle ni lui, c'est un instant qui se déchire, comme un cœur qui se blesse, des âmes déchirées.
C'est un printemps en plein automne, avec toujours les mêmes fleurs, un cimetière à ciel ouvert, qui devient ma résidence secondaire.
Et je pêche et j'arrose, je lui raconte mes vérités, et j'ai gardé en moi que des sourires à la vie.
Avec ou sans ta bouille,
tu es toujours au présent.
Tout ça je l'ai conservé
pour me faire grandir,
pour avoir du mordant
à tout moment, à chaque instant.
Je profite du temps qui existe
en sachant très bien que la vie est éphémère.
Radio Campus.
Patron, je t'ai dit, ne discute pas avec les communistes, mon Dieu.
106,6.